Serge, on commence avec toi.
Bon.
Tu as intitulé ta communication « La décroissance, condition et non pas obstacle à la convivialité ».
Oui, donc, en général, la plupart des gens qui nous entourent considèrent que, même s'ils admettent que la décroissance est une nécessité, mais pour eux, c'est une nécessité catastrophique. Je voudrais développer, dans le fil d'Ivan Illich, l'idée que c'est plutôt une bonne nouvelle et que c'est la condition même pour qu'on puisse vivre mieux. Alors, le 14 février 2002, le PDG du Global Village, du village planétaire, George W. Bush, déclarait devant un panel de savants de la météorologie américaine que, parce qu'elle est la clé du progrès environnemental, parce qu'elle fournit les ressources permettant d'investir dans des technologies propres, la croissance est la solution et non le problème. Voilà exactement la position pro-croissance. Cette position pro-croissance, elle est partagée bien sûr par tous les gouvernants de la planète, mais elle est aussi très largement partagée par nos amis de la gauche plurielle, y compris chez les altermondialistes. J'irai même plus loin. Ils sont même encore plus pro-croissance, puisque pour la plupart d'entre eux, ils considèrent que la croissance, en outre, est non seulement la solution du problème environnemental, mais c'est aussi la solution du problème social, puisque c'est sur la croissance que l'on compte pour créer des emplois, parce que même si un peu de croissance détruit les emplois, on continue à croire que beaucoup de croissance finit par en créer. Et donc, il faut non seulement un peu de croissance, il en faut même beaucoup. Et que c'est aussi ce qui permet, en accroissant la part du gâteau, d'en donner une part un peu plus grande, un peu plus que des miettes, donc en donner une part un peu plus grande aux pauvres. Donc c'est la solution absolument de tous les problèmes. Comme vous le savez peut-être, au moins ici dans cette assemblée, je pense que beaucoup le savent, le chroniqueur écologique de la revue Politis, qui est bien représente bien une sorte de plateforme de toute une partie de la mouvance altermondialiste. Fabrice Nicolino, pour ne pas le nommer, a été très récemment poussé vers la voie de sortie. Et il s'en est suivi un débat. Alors, on peut discuter sur les raisons de sa démission. Comme toujours, les combats comme ça sont souvent des combats douteux avec des arguments. Bon. Mais en tout cas, le débat qui s'en est suivi est assez clair et révélateur justement du malaise au sein de la gauche. Comme l'écrit un lecteur, parce que la revue Politis a publié par la suite un certain nombre de lettres de lecteurs, un des lecteurs écrit, très intéressant, que la vraie raison du conflit, parce que Fabrice Nicolino a expliqué que sa démission n'a pas été provoquée uniquement par sa chronique peut-être malencontreuse sur les retraites, mais qu'elle a été provoquée par de longs conflits, qui est à répétition depuis plusieurs années au sein de la revue Politis. Et donc, la vraie raison du conflit est sans doute, dit le lecteur, d'oser aller à l'encontre d'une sorte de pensée unique commune à presque toute la classe politique française, qui affirme que notre bonheur doit impérativement passer par plus de croissance, plus de productivité, plus de pouvoir d'achat, donc plus de consommation. Et Hervé Kempf, qui est le chroniqueur écologique du Monde, comme vous savez, a rendu compte de l'incident dans une assez belle chronique, où il conclut « Cette gauche peut-elle accepter de proclamer la nécessité de réduire la consommation matérielle, un impératif qui reste au cœur de l'approche écologique ?» Donc je crois qu'on est au cœur de notre débat. Après quelques décennies de gaspillage frénétique, il semble, la canicule de cet été en est une dernière preuve, que nous soyons entrés dans la zone des tempêtes, au propre et au figuré. Le dérèglement climatique s'accompagne, comme vous le savez, des guerres du pétrole. Si vous avez aimé les guerres du pétrole, vous adorerez les guerres de l'eau qui vont suivre, et qui seront suivies aussi de possibles pandémies, de disparition d'espèces végétales, animales, essentielles à la survie de l'humanité du fait de catastrophes biogénétiques prévisibles. Dans ces conditions, on peut dire que la société de croissance, et j'insiste sur l'expression, je ne parle pas de la croissance, mais de la société de croissance, comme je parlerai de société de décroissance, la société de croissance n'est ni soutenable, ni souhaitable. Il est donc urgent de penser à une société de décroissance, et si possible, sereine et conviviale. Donc la société de croissance n'est ni soutenable, ni souhaitable. Alors on peut définir la société de croissance comme une société dominée par une économie de croissance et qui tend à se laisser absorber dans cette économie de croissance. C'est-à-dire une société dans laquelle la croissance pour la croissance devient l'objectif primordial, voire le seul objectif de la vie dans une telle société. Alors une telle société n'est pas soutenable, et on l'a illustré depuis deux jours à refus, n'est-ce pas ? Elle n'est pas soutenable parce qu'elle se heurte aux limites de la biosphère et à l'épuisement de la lithosphère, pour reprendre la distinction de notre ami Jacques Greenwald. Si l'on prend comme indice du poids environnemental de notre mode de vie, ce que l'on appelle maintenant, ça commence à être assez répandu, l'empreinte écologique calculée en termes de superficie bioproductive, on obtient, je vous fais grâce des chiffres, on en a déjà cité, vous les trouverez dans le texte, on obtient des résultats insoutenables, tant du point de vue de l'équité, bien sûr, puisque, comme on l'a dit, nous consommons à l'heure actuelle, nous, Européens, 3 fois la planète, les Américains, 6 ou 7 fois, demain, 13 fois, après-demain, 30 fois. Donc, mais évidemment, cela n'est possible à l'heure actuelle que parce que les Burkinabés consomment 1/10 de planète, ramenée à per capita. Donc, insoutenable du point de vue de l'équité dans les droits de tirage sur la nature, et insoutenable, et encore plus, du point de vue de la capacité de régénération de la biosphère. Alors, pour concilier, ou pour tenter de concilier les deux impératifs contradictoires de la croissance et du respect de l'environnement, on a inventé, comme vous savez, ce merveilleux piège à con qui s'appelle le développement durable, mais derrière le développement durable de Lapin, il y a tout de même quelque chose de relativement sérieux, dont François Schneider nous a parlé hier quand même, et les experts ont pensé trouver une sorte de potion magique qu'ils appellent l'éco-efficience. L'éco-efficience, c'est-à-dire, c'est la seule pièce, c'est à prendre au sérieux, effectivement, c'est la seule pièce, seule base un peu sérieuse du développement durable. Donc il s'agit de réduire progressivement l'impact écologique et l'intensité du prélèvement des ressources naturelles pour atteindre un niveau compatible avec la capacité reconnue de charge de la planète. Et ceci est écrit en toutes lettres dans un document extraordinaire, le rapport du World Business Council for Sustainable Development, c'est-à-dire le club des 2000 grands pollueurs de la planète, Monsanto, Novartis, Rhône Poulenc, etc. J'en passe, vous les avez tous les grands. Mais qui, eux, ont dit que depuis Stockholm 1972, n'est-ce pas, à Johannesburg 30 ans après, pendant 30 ans, non seulement on n'a rien fait, mais les choses se sont empirées. Mais les grands pollueurs de la planète, les grandes entreprises transnationales, eux, elles ne sont pas restées inactives. Elles ont compris qu'elles avaient besoin de soigner leur image de marque et de faire de la com. Mais elles n'ont pas fait seulement de la com virtuelle comme M. Raffarin, elles ont fait vraiment de la com sérieuse en développant justement, comme elles s'en vantent, le concept d'éco-efficiency. Donc, comme mon ami Jacques Greenwald dit, il ne parle pas du World, il dit transform, le World Development Council for Sustainable Business. Donc, que l'efficience écologique se soit accru de manière notable, c'est incontestable. On l'a illustré hier avec les graphiques que nous a présentés François Schneider. Mais dans le même temps, la perpétuation d'une croissance forcenée entraîne une dégradation globale. Et donc, les baisses d'impact et de pollution par unité se trouve singulièrement et systématiquement anéanti par la multiplication du nombre d'unités vendues. C'est le phénomène qui nous a été expliqué sous le nom d'effet rebond. De son côté, la nouvelle économie dont on s'est beaucoup gargarisé et qui est certes relativement immatérielle ou moins matérielle, n'est-ce pas, remplace moins l'ancienne économie qu'elle ne la complète. Et en fin de compte, tout le discours sur le développement immatériel n'empêche pas l'accroissement du prélèvement sur les ressources de la planète. Et au final, tous les indices montrent que les prélèvements continuent de croître. Enfin, il faut la foi inébranlable des économistes orthodoxes, mais pour la foi, il n'en manque pas, pour penser que la science de l'avenir résoudra tous les problèmes. Et donc, ce n'est pas la peine de mettre des escaliers ou des ascenseurs dans les immeubles, puisqu'on peut penser que l'homme vaincra la pesanteur dans l'avenir et que par conséquent, on trouvera la solution. C'est exactement ce qu'on fait pour le nucléaire. Et que la substituabilité illimitée de la nature par l'artifice est concevable et résoudra tous les problèmes. Comme dit mon ami Mauro Bonaiuti dans un de ses ouvrages, justement, c'est comme si on pensait qu'on peut diminuer indéfiniment la quantité de farine pour faire des pizzas du moment qu'on on augmente la taille des fours. Alors, tout ça c'est très beau, mais si on suit Ivan Illich, la disparition programmée de cette société de croissance, qui a été illustrée et que j'ai rappelée brièvement, n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Au moment de la mort d'Ivan Illich, notre ami Jean-Pierre Dupuis a fait une belle chronique dans Le Monde qui s'intitulait « Ivan Illich ou la bonne nouvelle », dans laquelle il disait « La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas d'abord pour éviter les effets secondaires négatifs d'une chose qui serait bonne en soi, pensez la croissance, qu'il faut renoncer à notre mode de vie, comme si nous avions à arbitrer entre le plaisir d'un mets exquis et les risques afférents. Non, c'est que le mets est intrinsèquement mauvais et que nous serions bien plus heureux à nous détourner de lui, vivre autrement, conclut-il, pour vivre mieux. Eh bien, voilà le défi qui nous est adressé. La société de croissance, en effet, n'est pas souhaitable pour au moins trois raisons. Elle engendre une montée des inégalités et des injustices, dont les rapports annuels du PNUD nous donnent une illustration. Elle crée un bien-être largement illusoire, et même pour les nantis, elle ne suscite pas, elle n'engendre pas une société conviviale, mais une véritable antisociété malade de sa richesse. L'élévation du niveau de vie dont pensent bénéficier la plupart des citoyens du Nord est en effet de plus en plus une illusion. En effet, nous dépensons de plus en plus en termes d'achat et en biens et services marchands, mais on oublie toujours dans les calculs d'en déduire l'élévation supérieure des coûts. Cette élévation des coûts prend des formes diverses, marchandes et non marchandes, dégradation de la qualité de la vie non quantifiée mais subie, c'est la dégradation de la qualité de l'air que l'on respire, pas la dégradation de la qualité de l'eau que l'on boit, la dégradation de l'environnement, pas comme disait le responsable de Via Campesina du Mexique ou d'un des pays d'Amérique latine, dans notre pays, les trois causes de mortalité les plus importantes, c'est à cause des maladies respiratoires, c'est à cause de la mauvaise qualité de la nourriture et à cause de l'eau que l'on boit. Donc, les trois causes de mortalité, c'est respirer, boire et manger. C'est malheureusement devenu une triste réalité. Mais aussi les dépenses de compensation et de réparation sous forme de médicaments, de cures, de transports, de loisirs, etc., rendues nécessaires par la vie moderne. Et aussi l'élévation du prix des denrées raréfiées, l'eau en bouteille, l'énergie, les espaces verts, etc. Alors on a évoqué ce matin et hier déjà la nécessité de calculer de nouveaux indices, de rejeter le PIB, on a parlé de l'indice de développement humain, c'est un peu mieux que le PIB, mais ce n'est pas génial. Hermann Daly, on n'en parle pas assez en France, a mis sur pied un indice synthétique qui s'appelle le Genuine Progress Indicator, indicateur de progrès authentique, qui corrige le Gross National Product, le produit intérieur brut, justement des pertes engendrées par la pollution et la dégradation de l'environnement. Alors, ce qui est intéressant dans son indice de progrès authentique, c'est que les calculs très sérieux qui ont été faits avec toute une série de statisticiens, qui ont été d'ailleurs transposés dans beaucoup de pays, hein, malheureusement ça n'existe pas en France, et c'est bien dommage, c'est bon que quelqu'un s'y consacre, même si les indices ne sont que des indices, c'est pas parfait, il y a des tas de choses à dire, mais ça a quand même pas mal de mérite. Et en particulier, si l'on regarde, si j'étais moderne, pas comme mes petits camarades plus jeunes de jeunes générations, j'aurais fait des transparents, je vous aurais montré les courbes de cet indice, et cette courbe est très intéressante pour les États-Unis, car on voit qu'à partir des années 70, l'indice du progrès authentique stagne et même régresse, tandis que le produit intérieur brut continue d'augmenter. Donc, à partir des années 70, on a une diminution de la qualité de vie, en fait, une diminution du bien-être, quantitativement mesuré, même encore en termes économiques, ce n'est pas une révolution économique, et ça serait très intéressant tout de même d'avoir le même calcul pour la France. On a toute raison de penser que le résultat serait tout à fait comparable. Donc autant dire que dans ces conditions, la croissance est un mythe, mais j'insiste, même à l'intérieur de l'imaginaire de l'économie de bien-être, hein, sinon à l'intérieur de la société de consommation. Mais tout cela ne suffit malheureusement pas pour nous amener à quitter le bolide dont on a assez dit qu'il allait droit dans le mur, pour nous amener à nous embarquer dans une direction opposée. Alors, comment peut-on penser une société de décroissance sereine et conviviale? Entendons-nous bien, la décroissance a priori n'est pas un idéal au départ. C'est, comme on l'a répété depuis deux jours sur tous les tons, une nécessité. Ça n'est pas non plus l'unique objectif d'une société d'après le développement. Ça n'est pas l'unique composante d'un autre monde possible. Mais c'est une nécessité. Et s'il faut faire de nécessité vertu, il vaut mieux concevoir pour les sociétés du Nord la décroissance comme un objectif dont on peut tirer des avantages. Je dis pour les sociétés du Nord. Alors, mon ami Pierre Rabhi va dire, mais les sociétés du Sud. Alors, pour les sociétés du Sud, je dirais que l'objectif n'est pas vraiment à l'ordre du jour, en ce sens que même si ces sociétés sont traversées par l'idéologie de la croissance, et que des amis burkinabés m'envoient des mails en disant « Mais nous aussi, on est concernés par la décroissance. » Je dis « C'est très bien, ça c'est votre affaire et je suis très heureux de l'apprendre. » Mais on peut dire que les sociétés du Sud ne sont pas vraiment pour la plupart des sociétés de croissance. Elles sont traversées par l'idéologie de croissance, mais elles ne sont pas des sociétés de croissance. On verra pourquoi. Au moins, massivement, les gouvernements bien sûr, mais pas... La réalité de la société tout entière. Le mot d'ordre de décroissance a surtout pour objet, de marquer fortement l'abandon de cet objectif insensé de la croissance pour la croissance. On disait, hier, il y avait quelqu'un qui avait posé une question, décroissance de quoi? Mais on ne s'est jamais posé la question pour la croissance. Croissance, c'était la croissance pour la croissance. La croissance, c'est indiscutable, on croit pourquoi. C'est le fameux accumulé de Marx, c'est la loi et les prophètes. En particulier, et je suis content que Jacques l'ait dit déjà ce matin, la décroissance n'est pas la croissance négative. D'accord, la croissance négative, c'est une absurdité. Même si elle est utilisée, le terme est utilisé, on l'a vu par Chico Manchot, dans la contribution de Thierry Jacot, nous a appris hier que Chico Manchot parlait de croissance au-dessous de zéro et de croissance négative. Croissance négative, ça voudrait dire littéralement avancer en reculant. Mais ça montre quand même, c'est révélateur de la domination de l'imaginaire de la croissance, à quel point on est colonisé dans nos têtes par cette idéologie de la croissance. Alors, pourquoi la croissance négative, c'est à la fois absurde, hein, et antinomique. Eh bien, on sait, on le sait parce qu'on nous le serine tous les jours dans les médias, que le simple ralentissement de la croissance que nous vivons actuellement, hein, est une catastrophe. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. Alors tous nos responsables sont en train de regarder Soran, ne vois-tu pas venir la croissance à l'horizon? Alors on nous l'annonce pour l'année prochaine, il y a une reprise aux États-Unis, il y a une reprise là, ça va repartir, etc. Enfin, le budget, l'Europe va cesser de nous chercher des poux dans la barbe, etc., parce que la croissance va résoudre tous les problèmes. Et c'est vrai que le simple ralentissement de la croissance nous plonge dans le désarroi, parce que c'est encore plus de chômage, même si notre croissance, c'est vrai, ces dernières années, crée du chômage, mais moins de croissance, ça crée encore plus de chômage qu'un peu de croissance. C'est l'abandon des programmes sociaux, parce que quand on commence, c'est le repli sur les choses importantes, hein, donc les programmes sociaux, les allocations aux chômeurs, etc., c'est ça qui part en priorité, le culturel, l'éducatif, et bien sûr l'environnement, qui est un luxe, dont on s'occupe des fleurs et des petits oiseaux quand tout le reste est réglé. Et donc tout ce qui, dans une société de croissance, si infernale qu'on puisse la décrire, nous apporte quand même un peu de bien-être, hein, c'est tout ça qui commence immédiatement à se rétrécir. Alors, si un simple ralentissement du taux de croissance est une catastrophe, imaginez quelle catastrophe serait une croissance négative. Il faut être totalement irresponsable et inconscient comme nous sommes ici pour préconiser une croissance négative. Donc il est important d'expliquer justement que nous ne préconisons pas une croissance négative, mais une décroissance. Alors, pour faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette différence, hein, j'emprunterai une comparaison, mais qui n'est pas qu'une comparaison, parce que c'est le cœur du problème, à Hannah Arendt. Hannah Arendt disait « Il n'y a rien de pire qu'une société travailliste sans travail », c'est-à-dire une société dont l'imaginaire est organisé sur le travail, ce qui n'était pas le cas des sociétés anciennes qui pensaient reposer sur le loisir, mais notre société repose sur le travail. Et quand il n'y a pas de travail dans notre société, c'est une catastrophe, alors que pour des sociétés qui ne reposent pas sur le travail, c'est au contraire une excellente nouvelle. Eh bien, il n'y a pas pire qu'une société de croissance sans croissance. Une société de croissance sans croissance, c'est l'enfer. Si la décroissance est nécessaire, ça veut dire qu'il faut sortir de la société de croissance et inventer une société de décroissance. Il ne s'agit pas de décroître, il s'agit d'inventer une autre société. Alors, c'est précisément parce qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance et que nos amis de la gauche plurielle sont incapables d'imaginer une autre société, que cette gauche institutionnelle, faute d'oser la décolonisation de l'imaginaire, se condamne au social-libéralisme. Et toutes les gauches européennes font du social-libéralisme. Schröder, bah, que fait Schröder? Il suit à la lettre son ami Blair. Que faisait Jospin? Il faisait exactement la même chose. Si la gauche revient au pouvoir demain, elle fera encore la même chose. Il n'y a pas d'autre solution dans cet imaginaire-là. La décroissance n'est donc envisageable que dans une société de décroissance. Alors il convient, par conséquent, de dire qu'est-ce que serait une société de décroissance, d'en préciser les contours. Une politique de décroissance pourrait consister d'abord à réduire, voire à supprimer le poids sur l'environnement des charges qui n'apportent aucune satisfaction, c'est-à-dire supprimer les coûts externes de la croissance. La remise en cause du volume considérable des déplacements des hommes et des marchandises sur la planète, avec l'impact négatif que ce qui correspond, donc une relocalisation de l'économie. C'est dommage qu'Agnès Bertrand, hein, qui préside l'Institut pour la relocalisation de l'économie, ne soit pas là pour nous en parler, hein, mais aussi la réduction non moins de l'impact considérable, du coût aussi considérable, de la publicité tapageuse, souvent néfaste. Enfin, la diminution de l'obsolescence accélérée des produits, des appareils jetables, sans autre justification que de faire tourner toujours plus vite la méga machine infernale pour à chaque fois prélever cet intérêt dont vivent les capitalistes, comme nous a expliqué Jacques Greenwald encore ce matin, tout cela constitue des réserves importantes de décroissance dans la consommation matérielle. Alors, ainsi comprise, la décroissance ne signifie pas nécessairement une réduction du bien-être. Et là, je voudrais faire une sorte de flashback, quelque sorte, et nous ramener un siècle en arrière. En 1848, pour Marx, les temps étaient venus de la révolution sociale, comme vous savez, il pensait qu'on allait, en 1848, faire la révolution sociale et que le système capitaliste était mûr pour le passage à la société communiste d'abondance. Il observait, à son époque déjà, une incroyable surproduction matérielle de cotonnades et de biens manufacturés, et cette surproduction lui semblait plus que suffisante, une fois aboli le monopole du capital, pour nourrir, loger, vêtir correctement la population, au moins occidentale, il faut bien dire que c'est la seule auquel pensait Marx. Et pourtant, en 1848, la richesse matérielle était infiniment moins grande qu'aujourd'hui, calculée en termes de PIB. Je crois que ça a été multiplié par, je ne sais pas combien, mais c'est difficile de dire exactement, entre 10 et 100, mais énorme. Et en 1848, il n'y avait ni voiture, ni avion, ni plastique, ni machine à laver, ni frigidaire, ni ordinateur, ni biotechnologie, mais aussi ni pesticides, ni engrais chimiques, ni énergie atomique. Et donc, malgré tous les bouleversements inouïs engendrés par l'industrialisation, déjà en 1848, les besoins connus, identifiés de la population occidentale étaient encore relativement modestes et leur satisfaction semblait possible, accessible. Marx pensait que la révolution communiste et la réalisation du « à chacun selon ses besoins » étaient à portée de main. Donc, on imagine, n'est-ce pas, quel recul, d'un certain point de vue, on a fait par rapport à un siècle. C'est-à-dire un siècle après, une telle révolution nous semble infiniment plus lointaine, une telle situation où chacun pourrait satisfaire ses besoins dans l'abondance, une société d'abondance, nous sommes infiniment plus lointaine qu'aujourd'hui. Encore beaucoup plus proche de nous, en 1994, Philippe Saint-Marc, qu'on a évoqué, a écrit un livre assez intéressant, on peut découvrir, qui s'appelle « L'économie barbare ». Et dans ce livre, il nous présente une situation d'une société assez idéale, où il y aurait peu de suicides, où tout le monde aurait du travail, où les gens auraient un bon salaire, il y a une bonne garantie sociale, une société finalement assez heureuse. Il nous dit, mais cette société-là, c'est celle que nous connaissions dans les années 60 et que nous avons perdue. Donc, en 30 ans, n'est-ce pas, le progrès nous a amené à nous éloigner beaucoup et considérablement d'une société, non pas idéale, mais d'une société moins barbare, disons. Alors, pour concevoir la société de décroissance sereine et y accéder, je crois qu'il faut littéralement sortir de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'économie? Ça veut dire remettre en cause la domination de l'économie sur le reste de la vie, à la fois en théorie et en pratique, et surtout la domination dans nos têtes, c'est-à-dire ce formatage, comme on a dit, ce formatage des cervelles qui fait que nous ne voyons plus notre réalité que comme économique, ce que dans d'autres textes, d'autres interventions, j'ai appelé le marteau, avec le proverbe, enfin c'était une phrase de Max Twain que notre ami Hervé René Martin, ici présent, cite aussi dans son ouvrage, quand on a un vieux proverbe qui dit que quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous, n'est-ce pas ? Eh bien nous, hommes modernes, nous avons dans la tête un marteau, c'est l'économique, et nous voyons tous les problèmes sous la forme économique. Ce qui est important pour décoloniser notre imaginaire, c'est de prendre conscience que, en dehors de l'Occident, encore aujourd'hui, et en Occident, moins de 2 ou 3 siècles en arrière, les gens voyaient tous les problèmes sous la forme religieuse, tous les problèmes sous les formes de rapports de parenté. En Afrique, c'est toujours les rapports de parenté qui sont décisifs dans cette affaire-là, etc. Mais absolument pas dans les problèmes. D'abord, il n'y avait pas de mots pour parler des affaires économiques qui nous intéressent, etc. Et pourtant, ces gens vivaient. ils vivaient peut-être pas de façon formidable, etc. Ils avaient une espérance de vie moins forte, etc. Mais enfin, on a des traces quand même, des témoignages comme quoi il y a des périodes où les gens étaient relativement heureux. Donc, sortir de l'économie, c'est ça. C'est se nettoyer les méninges. Alors, ça implique évidemment une réduction, je dirais une réduction féroce du temps de travail imposé pour assurer à tous ceux au moins qui veulent travailler, hein, c'est pas évident, moi je suis pas un drogué du travail, hein, je pense qu'on peut faire beaucoup d'autres choses plus intéressantes, mais enfin il y en a beaucoup de nos contemporains qui veulent à tout prix travailler, donc assurer à tous un emploi satisfaisant. Et là, très intéressant parce que c'est pas nouveau, déjà en 1981, Jacques Ellul, qu'on peut considérer comme un des premiers penseurs d'une société de décroissance, fixait comme objectif pour le travail, vous êtes bien assis, accrochez vos ceintures, pas plus de 2 heures par jour. Pas plus de 2 heures par jour. Ce qui, par parenthèse, rejoint à peu près hein, les horaires de travail des seules sociétés d'abondance que l'humanité a connues, d'après les anthropologues, n'est-ce pas Marshall Salins, les sociétés de l'âge de pierre, hein, où les gens travaillaient pour subvenir à leurs besoins 2 ou 3 heures en chasse et en cueillette. Ce que font encore, d'ailleurs, les aborigènes du désert du Kalahari, que vous avez pu voir dans Les dieux sont tombés sur la tête, et qu'on est en train d'exterminer, victime d'ailleurs du succès du film, en partie, et victime aussi des mines qui se trouvent dans les réserves qui leur avaient été laissées. Hein. Bon, donc, 2 heures par jour, hein, et dans son... c'est très bien documenté dans le beau livre de Jean-Luc Porquet sur Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu. On peut, en s'inspirant de la charte consommation et style de vie qui avait été proposée au Forum des ONG de Rio, synthétiser tout cela dans un programme, j'ai un peu modifié leur proposition, un programme en 7 R, hein, réévaluer, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, recycler, réutiliser, recycler. Alors, l'intérêt de ces 7 R, c'est que, on pourrait allonger la liste, on pourrait penser rééduquer, reconvertir, redéfinir, remodeler, repenser, etc. Mais enfin, tout ça serait un peu répétitif. J'ai pris ceux qui me semblaient les plus stratégiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous interdépendants. C'est qu'on voit bien que si on privilégie le local, ça va amener à relocaliser, etc. Si on relocalise, ça amène à recycler, diminuer, etc. Tous ces trucs se renforcent l'un l'autre et il y a des effets de feedback. C'est pour ça qu'on peut parler. On parlait autrefois dans ma tribu des économistes des cercles vertueux de la croissance. Eh bien, on pourrait parler demain de cercles vertueux de la décroissance. Il y a des cercles vertueux de la décroissance. Alors, on voit tout de suite... réévaluer, on voit tout de suite quelles sont les valeurs qu'il faudrait mettre en avant, qui devraient prendre le dessus par rapport aux valeurs actuelles dominantes. Bien évidemment, l'altruisme, qui existe aussi même chez les animaux, pas, devrait prendre le pas sur l'égoïsme sacré. La coopération devrait être réévaluée par rapport à la compétition forcenée hein, qu'on essaye. Alors, on parle dans les programmes de réforme de l'enseignement, on est complètement coincé entre... la nécessité de préparer les jeunes à la lutte pour la vie, hein, mais on ne peut pas apprendre aux jeunes immédiatement et en même temps en faire des citoyens. Alors c'est totalement contradictoire. Si on en fait des citoyens, il faut les formater à la solidarité, mais si on veut en faire des gagnants, il faut les formater, au contraire, à piétiner les autres pour aller en avant. Entre les deux, il faudrait évidemment revaloriser la coopération. Bien sûr, revaloriser le plaisir du loisir sur l'obsession du travail, hein, se soigner quand on a vraiment l'obsession du travail, l'importance de la vie sociale sur la consommation illimitée, le local sur le global, ce que Ivan Illich appelait l'autonomie sur l'hétéronomie, hein, le goût de la belle ouvrage, hein, sur l'efficience productiviste. Hein, il y avait toute une idéologie alors, de l'œuvre, comme dirait Hannah Arendt, hein, de l'œuvre par opposition au travail, c'est-à-dire l'artisan ne travaille pas, hein, il œuvre. Hein. Le travail, comme on dit sa racine, tripalium, c'est le supplice, c'était ce qui était réservé aux esclaves. Hein, donc c'est l'esclavage salarial. Hein, mais moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Hein, j'étais professeur d'université, j'ai toujours fait des choses qui m'intéressaient. Hein. Donc, c'était d'ailleurs scandaleux, puisque j'ai été payé pour faire des choses qui m'intéressaient. Donc, normalement, on paye les gens pour souffrir. Hein. Et par conséquent, effectivement, on ne doit pas payer, et on ne les paye pas d'ailleurs, le paysan qui cultive avec amour son champ, parce qu'en cultivant son champ, faisant pousser ses trucs, même s'il sue, même s'il trime comme une bête, etc., il prend son pied. Il prend son pied, il est fier de ce qu'il fait, il est fier de sa production, etc. C'est pas du travail, c'est de l'œuvre. Hein. Bon, bon, il y aurait donc bien beaucoup de choses à faire là-dessus. Ah bon, bah d'accord, on me dit qu'il ne me reste plus qu'une minute. Bah ça va, ça tombe très bien. Il faudrait revaloriser ce que j'appelle le raisonnable sur le rationnel. Le raisonnable, c'est toutes les sociétés ont fonctionné sur le raisonnable. C'est le bon sens à travers les coutumes, à travers les proverbes, à travers tout ça, à travers tout le débat, le jugement. Hein. Justement, la modération dont on évoquait ce matin, etc., par rapport à la rationalité quantifiante qui est purement instrumentale. Et bon. Alors, le problème... Et c'est là la grosse question, c'est que ces valeurs actuelles qui dominent et qui dominent dans nos têtes sont systémiques. J'entends par là qu'elles sont suscitées et stimulées par le système et en retour, elles contribuent à le renforcer. Si bien que, bien sûr, l'ennemi, comme on dit toujours, l'ennemi, on peut le débusquer un peu partout, ce sont les firmes transnationales, ce sont les grandes institutions bureaucratiques, ce sont etc. Mais ultimement, malheureusement, l'ennemi se cache tellement bien qu'il est dans nos têtes. Parce que nous avons été formatés par des valeurs engendrées par le système et ces valeurs nous amènent à contribuer à la reproduction du système. Donc, bien sûr, on peut choisir la simplicité volontaire, très bien, on applaudit, etc. Mais on n'arrivera pas à faire bouger les choses sans bousculer le système. Alors hier, on a... quelqu'un qui disait, mais vous ne parlez pas du système capitaliste, changer, sortir du... Il est évident que quitter la société de croissance pour entrer dans une société de décroissance, au minimum, ça suppose de sortir du capitalisme. Mais sortir du capitalisme ne suffit pas. Il y a d'autres sociétés que la société capitaliste, et on a eu un exemple avec la soi-disant société socialiste, qui étaient aussi des sociétés de croissance, encore plus forcenées. Donc il faut la décolonisation de l'imaginaire doit être beaucoup plus radicale. Alors... je reviens sur la simplicité volontaire dont on va parler. Ça peut infléchir les tendances, ça peut contribuer à saper les bases imaginaires du système, hein, mais sans remise en cause radicale de celui-ci, le changement risque d'être limité. Alors, pour conclure, bien sûr, c'est très joli, mais votre truc, c'est totalement utopique. D'abord, c'est pas forcément... une critique. Hein. À l'heure actuelle, on a besoin d'utopie, on a besoin de rêve pour essayer. C'est une étape pour arriver à s'en sortir. Est-ce que la transition entre le réel et l'utopie, est-ce qu'elle est possible sans révolution violente? Ou plus exactement, je dirais, est-ce que la révolution culturelle, au bon sens du terme, la révolution mentale nécessaire, peut-elle être faite sans violence sociale? Alors, la limitation drastique des atteintes à l'environnement, donc de la production de valeurs d'échange incorporées dans des supports matériels physiques, n'implique pas nécessairement une limitation de la production de valeurs d'usage à travers des produits immatériels. Ces produits immatériels, au moins en partie, peuvent conserver une forme marchande. Mais je dirais ceci, si le marché ou les marchés et le profit peuvent persister dans une société de décroissance comme incitateur, ils ne peuvent plus, en tout cas, parce que là on ne pourrait plus sortir du système, ils ne peuvent plus être les fondements du système. Il peut y avoir du profit, il peut y avoir du marché, mais ça ne peut plus être une société de profit et une société de marché. Alors on peut concevoir des mesures progressives constituant des étapes. Mais il est évidemment impossible de dire si ces étapes seront acceptées passivement par les privilégiés qui en seraient les victimes, hein. Mais surtout, et je crois que c'est là le plus important, si elles seraient acceptées par les actuelles victimes du système qui sont mentalement et physiquement droguées par lui. Nous sommes littéralement des drogués de la croissance. C'est pourquoi nous nous intitulons maintenant des objecteurs de croissance. Alors, ça semble pas très optimiste. Et pourtant, je conclurai la conclusion en disant que l'inquiétante canicule de 2003, hein, qui a fait la une des médias et des journaux pendant pas mal de semaines, je crois que cette inquiétante canicule a fait beaucoup plus que tous les arguments que j'ai pu vous donner aujourd'hui pour convaincre nos concitoyens de la nécessité de s'orienter vers une société de décroissance. Et j'en veux pour indice, d'ailleurs, deux contributions dans le Monde qui étaient forcément très intéressantes. L'un des rédacteurs du Monde, Jean-Paul Besset, qui s'intitule « Faire face à l'agression climatique ». Et l'autre, encore plus intéressant, de Corinne Lepage, qui, comme vous savez, n'est pas spécialement une gauchiste, hein, qui s'appelle « Écologie, la révolution ou la mort ». Eh bien, ces deux contributions étaient de véritables appels à la décroissance. Alors, pour réaliser la nécessaire décolonisation de notre imaginaire, je crois, hein, et alors c'est une conclusion qui est à la fois optimiste et pessimiste, mais j'ai fait mienne la devise de Gramsci de tempérer le pessimisme de la raison par l'optimisme de la volonté, je crois qu'on peut très largement compter sur ce que j'appelle la pédagogie des catastrophes. J'ai une confiance, je suis optimiste parce que j'ai une confiance absolue dans la société de croissance d'engendrer les catastrophes. Et je constate que malheureusement, les catastrophes est notre seule source d'espoir, c'est-à-dire c'est la seule chose qui pousse les gens au cul et qui les remue et qui les fait bouger. Merci.